culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Chers amis du bonheur, c'est Causer Kilti qui débarque chez vous. Causer Kilti qui va consacrer tout un numéro à la parole, au langage mis en apesanteur. J'ai au studio un slammer béninois qui est de passage en Haïti dans le cadre des rencontres d'ici et d'ailleurs Laboratorio Art Contemporain, Kamal Radji. Bienvenue à Causer Kilti.
Bienvenue, merci beaucoup.
Ou en forme, ou que tu as rencontré un pile haïtien?
Moi en forme, moi rencontré beaucoup haïtiens. Moi commencé par les créoles.
Ah ben c'est super bien. Est-ce que au Bénin, tu avais rencontré quelques haïtiens, non?
Oui, si, j'ai rencontré beaucoup d'haïtiens. En tout cas, pas mal d'haïtiens au Bénin. J'avais déjà j'avais pas pu faire la différence si t'es haïtien ou béninois.
Ouais.
J'ai travaillé avec un guitariste haïtien qui a travaillé sur mon album, Samuel Jean-François. Et j'ai rencontré pas mal d'haïtiens déjà qui à l'époque venaient à nos scènes de slam. Et j'en ai rencontré encore ici fortuitement qui
nécessairement
de Cotonou à ici. Donc
ouais, ça fait une grande famille africaine. Kamal Radji, que font les Radji dans la vie?
Qu'est-ce que font les Radji dans la vie? Là, tu me demandes de parler pour tous les millions de Radji entre le Nigeria, le Bénin.
Ah ouais. Vous êtes nombreux.
Oui, on est pas mal nombreux. Sinon les
mais
radis...
ta famille immédiate, quand t'es petit, dans quel secteur tu les as vus?
Ah bon, les radis, c'est des Yoruba. On vient de Sakété, qui est un village entre le Nigeria et le Bénin. Et souvent, quand tu viens de Sakété, tu fais le choix soit d'aller à Lagos, soit tu fais le choix d'aller à Cotonou. Bon, je pense que
ouais.
Mes parents à moi, ils ont fait le choix de venir à Cotonou.
Et voilà, te et voici voilà. Donc béninois.
Et ce qu'ils font, ce sont des commerçants. Ils vendent, ils achètent, ils vendent. Comme beaucoup de Yoruba dans le golfe de Guinée.
Toi, t'as pas eu envie de te lancer dans les affaires aussi?
Mais écoute, quand tu passes ton enfance à gérer les affaires de tes parents, quelque part après, je pense que tu deviens peut-être que quelque part tu as la fibre de la création de la richesse, parce que moi je suis quand même un entrepreneur culturel, j'ai fait pas mal de choses qui rentrent dans cette démarche là, qui aussi est humain, qui répond aussi à toute notre vision sociale. Donc, quelque part, on est aussi des créateurs de richesses.
Voilà. Ta coupe de cheveux, Kamal Radji, je sais pas si des Haïtiens te l'ont déjà dit, c'était une coupe très à la mode en Haïti dans les années 70-60. On te l'a déjà dit.
C'était très à la mode aussi en Afrique. Très, très à la mode. Et souvent, je rencontre des personnes de cette époque-là qui me disent, mais écoute, toi, tu me fais rappeler ma jeunesse parce que j'avais un afro comme ça. Donc, c'était très à la mode aussi.
Mais pour un garçon qui est partagé entre 28 et 30 ans, et comment tu en es venu à la parole? Comment cette dame-là s'est-elle présentée à toi?
Au départ, était la parole flamme, la parole verbe, la parole respire, la parole est et la parole sera. D'après les anciens, on dit que la parole doit être vêtue comme une déesse et après laisser envoler comme une colombe. La parole, celle qui fait que l'homme est, la parole pense, la parole se vit, la parole agissante, la parole agit, rêve et sens. La parole d'aujourd'hui, la parole de demain, la parole du frère, la parole de la sœur, la parole du fils, la parole du père, la parole de la mère. Yes, la parole.
Yes, Kamal Radji. Du coup, cette parole-là, c'est une parole qui se refuse à la facilité et au trivial.
C'est une parole c'est une parole qui est issue beaucoup de la colère d'un jeune Africain qui voyait son avenir emprisonné et qui à un moment de sa vie a décidé de traduire sa colère à travers la parole. Et comme je le dis un peu partout, je suis allé prendre la parole. Je n'ai pas attendu qu'on me l'attende parce qu'il y avait un besoin de dire, et à travers ce dire, un besoin d'être et un besoin de conduire au savoir-être, au savoir-faire et au savoir-vivre.
Donc, et tu as commencé à faire des scènes de slam dès 2002.
Oui, on a commencé à faire des scènes de slam. On a pris la parole dans la rue.
Carrément quoi, la parole dans l'espace public.
Oui, la parole dans l'espace public, et je pense que l'espace public est au cœur de tout ce que je fais et tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Donc pour te dire que Beneslam, qui est devenue cette organisation que je gère et qui a fait tous les slameurs du Bénin, en tout cas qui a fait énormément la promotion du slam au Bénin et dans la sous-région, c'était un festival qui se déroulait par exemple sur les places publiques. Donc on créait des marchés, des rencontres littéraires, on permettait à des gens de venir prendre la parole, des scènes de slam, et cela nous a conduit à un super projet par exemple qui s'appelle Bambou Numérique, qui est au cœur de Cotonou et qui est sur une place publique.
Bambou Numérique, ça fonctionne comment?
C'est une bibliothèque, un espace de rencontre pour les jeunes, un café, un restaurant, un grand jardin, des toilettes publiques, un espace digital. C'est vraiment un espace de la parole, et c'est un lieu qui a été pensé pour les jeunes qui a envie de faire l'économie de la connaissance, comme je le dis, c'est-à-dire que faire rencontrer les gens, faire en sorte que le savoir puisse être démocratisé, et aussi conduire les jeunes à être acteurs de leur environnement. C'est un projet que nous avons démarré maintenant depuis 6 ans. On a construit la bibliothèque, on a construit le café, et on tient beaucoup d'activités. On fait des ateliers d'écriture, immersion publique.
Ouais.
Par exemple, tu viens dans un restaurant, tu trouves des jeunes qui sont en train de faire un atelier d'écriture. Donc souvent, c'est rigolo, les gens s'asseyent, ils les écoutent, ou un atelier du dire, ou de... Voilà, et on a soutenu une très belle activité, par exemple, qui s'appelle Slam Lady, où à travers le slam, on donne la parole à des jeunes filles. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que vous pouvez entendre. Et c'est moi je pense, comme je le dis déjà dans mon pays, je pense qu'on devait mettre le slam au programme scolaire, parce que déjà ça pourrait permettre à l'enfant déjà dès le bas âge de savoir que il peut prendre la parole et dire ce qu'il pense.
Tu es en Haïti sous la coupole de Laboratorio Art Contemporain. Dis-nous comment tu as rencontré ces dames de Laboratorio. Parlons de Slam Lady.
Je pense que Laboratorio, ils ont une très grande expérience. Ils ont une très très grande expérience dans la culture. Ils ont cette capacité à pouvoir dénicher des gens contemporains qui peuvent vraiment être des porteurs de quelque chose, et je me fais un honneur, parce que quand même, quand vous regardez la logique des activités de Laboratorio, que ce soit en Haïti ou que ce soit en Bénin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis venu, je suis à l'acte 3, je suis venu après Dagbo Kuno, après Wole Soyinka, et je suis venu ici. Donc pour moi, c'est un grand honneur, et je pense qu'ils savent très bien conjuguer la logique.
C'est quand même un triangle qu'ils arrivent à faire.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est quelque chose, et c'est quelque chose d'extraordinaire, pouvoir être capable d'avoir le courage, parce que je l'ai dit, d'avoir le courage d'inviter des personnes comme moi qui portent un discours qui parfois ne plaît pas toujours à tout le monde, mais comme nous on le dit, nous ne faisons pas la promotion de la violence. Ce sont les violences que nous recevons et que nous nous en rendons compte en l'écrivant, et nous-mêmes nous nous rendons compte de cette violence là et cette violence est issue de faits, parce qu'il n'y a pas une volonté de cacher quoi que ce soit.
C'est une violence structurelle,
et dire les faits ne veut pas dire être ennemi de quelqu'un. On dit les faits, pour nous-mêmes c'est choquant C'est choquant parfois de dire les faits. Et nous avons fait ce choix-là de dire les faits. Et d'autres personnes peuvent dire autre chose, mais nous sommes toujours ouverts au débat et à la discussion. Et c'est pour ça que je trouve le travail de Laboratorio extraordinaire, parce que ils sont capables de ramener un Kamal Raji du haut de son impertinence et à être dans cette démarche-là de la discussion, du débat, ouais, qui agit l'esprit.
Alors justement, dans ces mouvements que crée Laboratorio, en janvier 2016, j'étais au Bénin, mais là, je t'ai pas croisé, tu étais à la ferme. Dis-nous ce qu'est la ferme. Non, reviens.
Ok. Écoute, tu sais, moi, j'ai une très bonne carrière au Bénin et je veux dire que je m'attendais pas à avoir une ferme. J'ai commencé une démarche agricole il y a 4 ans, juste après quand ma grand-mère est morte. C'était une très très grande amie et elle m'a dit quelque chose qui était important. Elle m'a dit: écoute, tu n'attendras pas 60 ans avant de construire ta ferme. Si ton rêve c'est d'avoir une ferme, de réussir ce que tu dis sur ta musique, bah fais-le maintenant. Et juste après quand ma grand-mère est morte, j'ai acheté une moto. Et je me suis fait le défi à moi-même de faire le tour du Bénin à moto. Je l'ai fait suivre sur les réseaux sociaux. Et je disais aux jeunes de Cotonou: arrêtez de vous enfermer dans Cotonou. Vous avez des motos, vous pouvez aller visiter votre propre pays. Mais d'abord, il fallait que je le fasse moi-même. Donc,
ouais, pour déjà montrer l'exemple.
J'ai visité beaucoup de camps.
Ça a dû être physique, ça a dû être sportif.
Oui,
le Bénin, c'est un vaste territoire.
Oui, oui, c'est physique, c'était très sportif. Et cela m'a permis aussi de développer inconsciemment une intelligence économique, parce que je pouvais être capable de savoir que dans telle région du pays il y avait telle chose et que telle personne ici en avait besoin. J'ai par exemple aidé beaucoup des Indiens qui venaient au Bénin acheter de l'anacarte, parce que je connaissais des régions d'anacarte qui étaient inaccessibles. Il y a une partie, je fais pas mal d'argent dedans. Et après cela, j'ai décidé de construire une ferme. Donc j'ai été capable de rassembler des gens qui pouvaient croire en ma folie. On a acheté une tente, on est allé dans la brousse. Et bon, voilà, aujourd'hui, 22 hectares, on produit pas mal de choses. J'en ai fait une entreprise, j'ai vendu des parts par exemple à des Allemands. Je gère cela avec un de mes amis d'enfance qui est permanent là-bas. Et je suis revenu en ville quelques temps après, puis j'ai décidé de construire des bibliothèques, de construire des espaces.
Ouais, tu es dans une polyvalence, tu es sur tous les terrains.
Oui.
Et quand tu es arrivé là en Haïti, qu'est-ce que tu as senti au premier degré? Qu'est-ce que ce pays t'a envoyé comme signaux?
Déjà, je connais Haïti d'abord dans les livres, dans beaucoup de livres, et je connais l'histoire de Haïti. Et quand je suis arrivé ici, j'ai pas l'impression d'avoir voyagé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois les gens, ils ressemblent énormément aux gens de chez moi. Et d'abord, c'était ma première impression. Et j'ai commencé aussi à essayer de trouver toutes les similitudes qu'on avait entre Haïti et le Bénin. Et il y en avait trop. Il y en avait beaucoup. Et ça m'a réconforté dans mes positions sur le fait que il faut vraiment que nous puissions construire des ponts culturels pour, comme je le dis, pacifier les mémoires et pour que des gens d'ici puissent aussi connaître les gens du Bénin, de l'Afrique en général aussi, et que les gens de l'Afrique puissent aussi venir ici. Je pense que c'est le travail que Laboratorio fait déjà à travers des personnes qui portent la culture et qui ont de l'influence, que ce soit en Afrique et que ce soit ici. Depuis que je suis ici, j'ai pas arrêté de faire, par exemple, de ma venue sur Haïti, l'événement sur les réseaux sociaux, en tout cas au Bénin. Et ce qui fait que je suis sûr qu'il y a beaucoup qui sont allés chercher c'est quoi l'histoire d'Haïti. Et c'est important parce que Haïti, la perle des Caraïbes, au cœur justement de l'Amérique, est, comme je le dis, un pays qui résiste depuis très longtemps face à l'oligarchie internationale, face à l'impérialisme, et qui a les poings levés. Et qui, comme le dit Sylvana Mouy-Virchaud, la présidente de Laboratorio, qui et en avant surtout, même le chaos.
Ouais. Là, on commence à rentrer dans ton champ thématique. Justement, on va passer à ton slam, Kamal Raji. Tu as un texte que tu as carrément appelé le colonisé.
Bien sûr.
Y en a-t-il beaucoup des colonisés jusqu'à présent en Afrique, dans des États, au regard des guillemets, indépendants?
Tous les pays qu'on a appelés pauvres ne sont quand même pas issus d'une magie. Ils viennent d'un processus. Et d'abord, un processus où on a emprisonné les mentales, où on a réduit l'humain à l'ignorant du 21e siècle qui est incapable d'apporter quelque chose à l'humanité, c'est-à-dire à l'humain en général. Donc, je veux dire que toutes ces choses font qu'on a déstructuré l'homme dans son environnement, dans sa vie. Donc à un certain moment, il faut quand même que pour un jeune comme moi à qui on disait à l'école, comme je le dis dans la chanson, tu es un échec, de se poser la question de savoir comment est-ce que des gens que tu admires peuvent t'appeler un échec. Donc de remettre en question cet avenir, comme je le dis, qu'on nous a préparé, et de savoir, de commencer à se poser des questions. Et lorsque moi, je n'étais pas appelé à être un activiste ou à faire de ma musique une démarche politique, non, c'est simplement parce que on me refusait le droit d'être jeune, le droit de penser, le droit de vivre. On me refusait tout.
Et du coup, ton slam est une réaction par rapport à ces privations structurelles.
Si je n'avais pas eu de la musique, peut-être que j'aurais exprimé ma violence autrement. Par la force des choses, j'ai pu, comme le dit, trouver des bouquins, parce que comme je le dis, lire a sauvé ma vie. C'est pour ça que lorsque je pense, je n'ai pas des moyens extraordinaires, mais lorsque je pense que je rentre dans une démarche où je peux être dans assumer mon autodétermination, la première des choses que je dois faire, c'est d'ouvrir des bibliothèques, parce que je sais ce que c'est que la colère. Je vous dis, j'ai réussi à me pacifier moi-même, mais un temps de ma vie, j'aurais pu prendre des armes ou finir un bandit, ou parce que il n'y avait pas d'issue pour moi. Mes parents sont pas riches, donc il y a toujours eu cette démarche là de savoir d'aller chercher la connaissance que j'ai pu trouver tôt, et j'ai commencé à me poser des questions.
Ouais, du coup, c'est la connaissance et le savoir comme bouée de sauvetage.
Oui, si c'est ça, définitivement. Moi, comme je le dis, cher Anta Diop, il disait à la jeunesse africaine, armez-vous de science, et à connaissance égale, la vérité triomphe. Et la seule chose qui pourrait me sauver, moi, c'était la connaissance.
Depuis 1960, mon pays va de vague en vague et divague. Un demi-siècle qu'on rentre dans le mur et le développement rend le largue. C'est vrai, c'est la faute à personne, car du béninois à l'africain, on attend que l'heure de Dieu sonne. How can I tell you that the life you live is not your own? Je ne t'apprends rien, c'est sûr, nous savons tous que la vie est dure. Excuse cette tête de slameur, elle pense qu'ici nous vivons dans une folie générale, que tout le monde est fou. Excuse-la aussi, parce qu'elle pense que la surdité n'est pas seulement cette maladie où l'on a les oreilles bouchées, parce que tout le monde est sourd. Ma jeunesse, son problème c'est swag is no question. Maybe Kadhafi is crazy, maybe it's not your problem. Faudrait peut-être penser à brûler le yes weekend, montrer le yes Africa you can't, afficher le Obama is dangerous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans la savane, l'Afrique. Ici, nous savons très bien qu'émander, oui, mes pères et moi, nous savons très bien demander de l'aide. Comment pouvons-nous penser que c'est parce qu'un noir est à la tête de la plus grande mafia du monde, de la plus grande puissance économique du monde, il allait penser à nous? L'Amérique a ses problèmes et ses intérêts, c'est tout. I would love to live in the country where you don't pay light and water. J'aimerais vivre dans un pays où l'on ne paye pas l'électricité et l'eau, où le litre d'essence est 55 francs, où la bourse de l'étudiant est 1647 euros, soit le salaire d'un Français. My history teacher told me, your country is independent. But it's not true, parce que nous ne sommes même pas capables d'éteindre nos télés et d'allumer nos cerveaux, dira mon ami Giovanni.
Tu poses également un autre problème dans l'un de tes textes, c'est quand l'Africain, il part étudier en Europe, quand il retourne au pays, il a des difficultés à intégrer ce pays qui est signé.
Oui, le Benguiste, ouais. qui est un morceau sur mon album, mm-hmm. et je raconte la rue, je raconte le contraste, je raconte mm-hmm. des hommes qui se retrouvent à avoir le cul entre deux mondes, c'est-à-dire que galérer en Europe, et alors...
Ils sont perçus comme étant africains, étrangers.
Que quand ils sont en Europe, ils sont des Africains, et mm-hmm. une fois quand ils reviennent dans les capitales africaines, ils sont perçus comme le Benguiste, celui-là qui est retourné de l'Europe. Et tout le monde veut qu'il leur donne de l'argent. Tout le monde pense qu'une fois qu'ils sont allés en Europe,
ils ont les millions de l'Europe.
Ils ont des millions de l'Europe. On leur a donné assez d'argent, sans doute parce qu'ils sont, et eux qui n'étaient pas si bien habillés, ils sont allés en Europe, ils ont commencé à porter des costumes cravates. On les a vus avec des Occidentaux. Donc tout de suite, ils sont riches parce que, vous savez, en Afrique, il y a cette chose qu'on construit dans le mental des gens déjà depuis l'école, que la réussite, c'est l'Europe. La réussite, c'est l'occidentalisation, c'est-à-dire se devenir cet homme occidental. Et c'est pour ça que Frantz Fanon faisait extraordinairement dans ce livre « Peau noire, masque blanc », parce que définitivement, on a fabriqué, comme je le dis, des caletas, c'est-à-dire ce sont des masques qu'on a fabriqués, et les gens ne sont plus eux-mêmes. Donc ce qui fait que les modèles, d'abord ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont réussi à sortir, mais réussi à sortir comment? Donc il faut véritablement décomplexer cela, être capable de dire aux gens que vous pouvez réussir sans forcément sortir de l'Afrique, mais il faut pour cela faire en sorte que le jeune puisse vivre avec son esprit dans son pays, mais ne pas être de corps dans son pays et avoir son esprit dans les capitales européennes.
Donc, toujours noir de peau, mais pas noir dans la tête.
Pas obscur dans la tête.
Absolument.
Donc, définitivement, il faut faire en sorte que l'humain dans son environnement puisse devenir un outil culturel, un outil économique, un outil politique.
Mais là où tu surprends Kamal Radji, c'est ta relation avec un certain Barack Obama. Je pense que il n'est pas ton super pote, quoi.
Non, ce n'est pas que c'est mon super pote. Je vous remercie.
Alors, il n'est pas ton super pote.
Non, non, je ne vais pas dire ça. J'aime Barack Obama. Moi, je l'aime, je l'admire pour ce qu'il est, pour son parcours. Mais je pense que en tant qu'un Africain, Barack Obama ne va pas venir régler les problèmes de l'Afrique. Il a été d'abord élu pour régler les problèmes de l'Amérique.
C'est un président américain.
Et il faut que l'Africain ou l'Afro-descendant, partout où il se trouve, arrête de penser que c'est parce qu'un Noir a été élu président des États-Unis qu'il viendra le sauver. Il faut qu'il comprenne qu'il est d'abord un élément culturel, un élément politique, et que son avenir est dans ses mains et qu'il n'est pas dans les mains de Dieu. Parce que Dieu nous a déjà réveillés et qu'il faut définitivement que nous prenons conscience que nous sommes encore dans nos pays décolonisés et qu'il faut nous décoloniser, qu'il faut nous décomplexer et qu'il faut que nous puissions être capables d'élire des gens qui vont penser notre autodétermination et d'arrêter d'élire des imbéciles parce qu'ils ont de l'argent.
Donc
parce
tu que penses vous savez que les églises Kamal Radji participent à créer un climat d'obscurantisme?
Vous savez, je suis connu pour dire les faits. Mais quand je dis les faits, parfois on me dit que je n'aime pas ou que je suis en guerre. Moi, comme je dis, je suis en paix. J'ai pu retrouver la paix avec moi-même. Mais j'ai compris aussi ma colère. Et je pense que les églises en Afrique et dans tous les pays qu'on a appelés pauvres hein, n'ont pas réussi depuis tous ces temps à sortir les gens de la pauvreté mentale, physique, économique et définitivement dans nos pays, il faudrait beaucoup plus de bibliothèques que d'églises parce que on fabrique des imbéciles du 21e siècle qui attend tout, on déresponsabilise l'humain dans sa société et c'est un mal. Aujourd'hui, les gens en Haïti ne sont plus devenus des Haïtiens.
Ils sont devenus, c'est tellement dommage. On a perdu toute citoyenneté. Les gens sont pour le ciel.
Ils sont devenus des frères en Christ, des frères du paradis. Ils ne sont plus devenus des...
Du coup, ils ne sont plus intéressés par la chose politique. Ils te disent qu'ils ont un visa pour l'au-delà, qu'ils vont aller au paradis. Du coup, les églises participent à paupériser les pays qui sont déjà pauvres.
Bien sûr, c'est tout un système parce que c'est une population. Et ça arrange certaines personnes de fabriquer l'abrutissement. Et puis moi, je pense qu'il faut lutter contre l'imbécilité.
Mais les écoles aussi sont dans ton viseur un petit peu. La façon dont nos cerveaux sont formatés, la façon dont le savoir est campé, la façon dont ce savoir est donné.
Jusqu'à aujourd'hui, l'école forme pour un système. Et l'école ne se demande pas s'il peut former pour autre chose. Et l'école n'a pas encore dans cette démarche-là de remise en question. C'est pour ça que moi, je suis un autodidacte. J'apprends ce qui m'intéresse. J'apprends tout. Je suis capable de parler d'économie, de politique. Et c'est pour ça que j'invite souvent les grands professeurs à des débats dans mon pays. Parce que je sais que je vais leur faire paraître, leur afficher un certain nombre de choses qu'on peut discuter. Mais ceux qui sont dans le dogme, que ce soit, ils refusent toujours le débat parce que
ces figures-là chez toi, les docteurs.
Oui, des docteurs en économie qui fabriquent la pauvreté. Moi, par exemple, il y avait un président chez nous qui était un docteur en économie qui s'appelait Yahi Boni, mais qui pendant longtemps a fabriqué la pauvreté chez nous.
Pour moi, c'est pas un mot. Docteur en économie.
Tout en étant des docteurs. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas été capable même de réussir sa thèse, ne serait-ce que même de former une jeunesse qui après allait prendre le relais là. Donc je pense que ce sont des choses qu'il faut, il faut le dire. Et puis les gens répètent des caletas, ce sont des masques pour noir, masques blancs. C'est-à-dire les gens répètent tout le temps des formules apprises dans des livres, mais sans être capables de le vivre et de pouvoir le défendre.
Ils sont dans ce que Fanon appellerait un arsenal complexuel.
C'est cela, c'est cela. Et ça a fabriqué une grande population de complexés et une grande population d'hommes qui ne sont plus et qui, comme des loques humaines, se promènent dans nos pays.
Alors maintenant, que faire, Kamal Radji? Qu'est-ce que la jeunesse africaine, qu'est-ce que la jeunesse haïtienne peut faire pour tirer son épingle du jeu?
D'abord, il faut prendre conscience de savoir, moi, une des grandes questions que je me pose chez moi, je ne suis pas une source à formule, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que on peut se poser des questions. Je le disais tantôt, une grande question que je me pose, c'est que pourquoi je suis né dans mon pays? D'abord, en tant que jeune, en tant qu'être humain, on doit se poser la question de savoir pourquoi je suis né ici, cette terre-là, cette terre d'Haïti-là. Pourquoi je ne suis pas né
à Stockholm,
pourquoi je ne suis pas né au pôle Nord, pourquoi je suis né ici? Donc, si je suis né ici, c'est que j'ai une mission ici. C'est que je suis né pour être un élément de la communauté.
Il faut faire un bon usage de sa présence dans son pays.
D'abord, il faut être d'abord un élément de la communauté là où on vit avant d'être un frère en Christ. Il faut être d'abord un élément pertinent qui se pose des questions sur son nom. Pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'en Haïti, on n'est pas capable d'avoir de l'eau facilement? Hein? Pourquoi est-ce qu'en Haïti, on n'est pas capable d'avoir de l'électricité? C'est quand on sait que la science, aujourd'hui, en 2019, peut nous permettre
tous
d'avoir de l'eau.
Tous ces problèmes-là sont résolus. Il y a assez à manger pour environ 14 milliards d'individus.
Donc, lorsqu'on se pose des questions, on est capable de comprendre le monde, de savoir comment il marche, et on est capable de dire, moi, je ne serai pas un élément qui va continuer à faire en sorte que le système se perpétue. Et lorsqu'on prend conscience de cela, on est capable de construire autrement.
Voilà, Kamal Radji, un slammer, un parolier perdu entre 28 et 30 ans, qui est en Haïti dans le cadre de ses rencontres. Dans
les rencontres d'ici et d'ailleurs.
Les rencontres d'ici et d'ailleurs qu'organise Laboratorio Art Contemporain. La présidente Sylvana Moivirchaud a bien fait de t'amener dans ce studio. La coupe de cheveux années 70, le discours très ancré dans une intelligence collective qu'il faut créer pour dégager nos pays de la pauvreté. Merci Kamal Radji.
C'était un grand plaisir.
Gardons bonheur. On remercie les partenaires de cette émission que sont l'ambassade de France en Haïti, l'ambassade de Suisse en Haïti, l'Institut français d'Haïti, la Focal, l'OIF. Gardons bonheur, James Guillou qui assure le montage. Rendez-vous dimanche prochain.
Les anges sont blancs. Ferme les yeux quand tu pries et fasse cette image de coloniser. Je suis un pharaon. Moi je m'en fous de votre système. Je ne suis pas un colonisé. Enseignez à mes géniteurs ce qu'ils ont d'or pour mieux les utiliser. Emmerdez le prêtre qui vous dit que seul le pauvre entrera au royaume des cieux. Moi, je ne suis pas ce colonisé. En vérité, je suis un insatisfait. Accusé du doigt, pour ne pas dire jugé du regard. Comment voulez-vous que je vive comme un homme si dans votre système je suis sans cesse le marginalisé? Et on nous endort dans les églises, dans les écoles. Laisse-moi te dire que leurs discours sont des somnifères. La part